Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.
Amen.
Sa présence est merveilleuse. Tu me rempliras de joie par ta présence, nous dit la parole de Dieu. C'est vrai qu'il y a une source de joie intarissable lorsque nous adorons le Seigneur de tout notre cœur. Amen.
Amen.
Mais il faut le faire de tout son cœur. Si ça sort du bout des lèvres, ça ne monte pas plus haut que le plafond. Mais si ça vient du cœur, ça monte jusque vers le trône de Dieu. Alléluia. Oh, il est merveilleux, le Seigneur. Il nous a créés pour l'adorer. Il t'a sauvé pour l'adorer. C'est là ton premier ministère, avant tout. Alléluia. Si tu es fidèle à ce ministère, Dieu te confiera d'autres charges, d'autres tâches, d'autres ministères. Et tu seras fidèle aussi, parce que tu es fidèle dans le premier que Dieu te demande. Qu'il en soit ainsi, parce que tout dépend de cela. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Pour bien servir, il faut bien adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Plus on l'adore, plus on l'aime. Et après, quand on sert le Seigneur, c'est un cœur qui déborde d'amour, qui parle. Et c'est ainsi que des fleuves d'eau vive peuvent couler de notre sein. Gloire à son nom. Amen. Nous continuons donc nos méditations sur le besoin de discernement dans les temps de la fin. Plus que jamais, nous en avons besoin. Et ce soir encore, le Seigneur veut se révéler à nous. Nous sommes en train de méditer un peu plutôt dans les épîtres à Timothée où Paul adresse à Timothée plusieurs exhortations en rapport avec la fin des temps et le discernement que son disciple, et par son disciple bien sûr, tous les chrétiens doivent avoir dans ces temps de la fin. Et les paroles de l'apôtre sont extrêmement urgentes. Il voulait communiquer un message urgent à son disciple Timothée. Et ce soir, nous allons voir à qui Dieu donne le discernement finalement. Bien sûr, Dieu veut donner ce discernement à tous ses enfants, c'est vrai. Mais à ses enfants qui veulent prendre leurs responsabilités avec le Seigneur et dans leur témoignage dans ce monde. C'est lorsque nous sommes décidés à prendre nos responsabilités, lorsque nous nous sentons responsables, que Dieu donne le discernement. Amen.
Amen.
Dieu ne va pas nous donner le discernement comme ça. Voilà, je te donne le discernement pour rien faire, pour rester dans son fauteuil et pour dire, oh là là, vous savez, moi j'ai des révélations extraordinaires, moi Dieu me parle, Dieu fait ceci, Dieu fait cela, et la personne ne fait rien du tout. Une personne qui ne fait rien du tout et qui a beaucoup de révélations, je doute de ces révélations. Ce sont des imaginations plutôt que des révélations. Car Dieu donne le discernement spirituel à ceux qui se sentent responsables dans l'œuvre de Dieu, par rapport à Dieu, par rapport aux hommes. C'est pourquoi ce discernement varie parmi les enfants de Dieu, n'est-ce pas vrai? Les uns n'ont plus que les autres. Est-ce que c'est parce que Dieu aime l'un plus que l'autre? Certainement pas. Dieu nous aime tous de la même façon. Mais pourquoi est-ce que certains n'ont plus que d'autres? Parce que certains se sentent plus concernés, plus responsable de l'œuvre de Dieu, de ce qui se passe dans le monde. Ils ont plus à cœur l'œuvre de Dieu. Et lorsque Dieu voit cela, Dieu donne des dons, des qualifications, le discernement qu'il nous faut pour faire ce travail, car nous en avons instamment besoin. Donc, mes amis, tout commence par là. Vous sentez-vous responsable? Il y a beaucoup de chrétiens qui se laissent aller. C'est toujours les autres qui doivent faire quelque chose pour eux. Beaucoup de personnes sont comme des wagons, mais ils ne sont pas la locomotive qui tire. Ils sont toujours les wagons, on doit toujours les tirer. Toujours les tirer. Toujours. Mais Dieu veut que tu sois la locomotive qui tire, qui prend ses responsabilités. Non pas qu'il se laisse aller comme ça continuellement. Et comme la Bible dit, si on se laisse aller comme ça, on est emporté à tout vent de doctrine. Si tu te laisses emporter, si tu ne te sens pas responsable de l'œuvre de Dieu, par rapport à Dieu, par rapport aux hommes, tu te laisses aller. Et ce que tu entendras qui te fera plaisir, c'est ce que tu accepteras. Une fois à gauche, une fois à droite, une fois en haut, une fois en bas. Une fois présent, une fois absent. Plus souvent absent que présent. Mais emporté des chrétiens wagons. Il faut toujours les tirer. Alors, tu viens à la réunion ce soir? Si tu y vas, j'y vais. Voyez-vous, c'est le wagon. Si tu y vas, j'y vais. Il faut la locomotive. Mais si tu y vas pas, non, j'ai pas envie ce soir. J'ai mal à la tête. Ils ont toujours mal à la tête quand il faut venir dans la présence du Seigneur. Mais quand c'est pour aller voir quelque chose qui leur plaît bien, il n'y a pas plus mal à la tête, plus rien du tout. C'est plus les mêmes personnes. Dieu veut donner le discernement à ceux qui se sentent responsables. Et j'aimerais parler avec vous, justement, dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 4, où nous voyons les responsabilités que Paul confie à son disciple Timothée. Il y en a plusieurs, on pourrait en donner plusieurs, mais j'en ai noté cinq responsabilités du chrétien au sein de l'apostasie actuelle. Cinq responsabilités. Et si nous prenons nos responsabilités, si nous nous sentons concernés par ces paroles, Dieu donnera le discernement nécessaire. Amen. Mais si nous ne sommes pas décidés à prendre des responsabilités, à nous engager avec le Seigneur, alors il ne faut pas compter beaucoup sur le discernement. 2 Timothée, chapitre 4, les cinq premiers versets. Ces paroles sont extrêmement importantes pour chacun d'entre nous. Et nous voyons que là, Paul parle vraiment avec un grand fardeau. Vous remarquerez, les paroles sont extrêmement solennelles et sérieuses. Il a un fardeau, le fardeau de l'œuvre de Dieu. Il va bientôt partir et il veut que Timothée ait aussi ce fardeau. Il va prendre le flambeau bientôt et il faut qu'il se sente responsable. Sinon, il ne pourra pas faire ce que Dieu lui demande. Il ne remplira pas bien son ministère. Et lisons ces cinq versets. 2 Timothée 4, verset 1er. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Regardez le sérieux des paroles. Qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Croyez-vous que nous sommes dans ce temps-là? Nous y sommes en plein, mes chers amis, en plein. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs. Voyez-vous, une foule de docteurs. Selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Amen. Quelle parole, quel sérieux. Paul voulait vraiment que son disciple soit conscient des responsabilités qui sont sur lui. Et il a besoin de voir les choses comme Dieu les voit. Et nous voyons ici qu'il arrivera un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'était déjà valable en son temps. Mais comme nous l'avons déjà vu, le mal va en augmentant. Si c'était déjà presque insupportable à ce moment-là, c'est là encore plus maintenant. Et de plus en plus, les hommes ne supporteront pas cette saine doctrine, cette prédication de la parole de Dieu. Mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et ils se donneront une foule de docteurs. Voyez-vous, ce sont des gens donc qui courent n'importe où. Une foule de docteurs. Et ils sont toujours là à dire « Ah, celui-là est formidable, celui-là. » Ils sont toujours en train de parler d'un homme. « Ah, celui-là, je viens d'entendre celui-là, il est formidable. Je viens d'entendre lui, ah, il est formidable. Celui-là, il ne vaut rien du tout. Celui-là, il vaut rien. Celui-là ne va pas le voir, il ne vaut rien. Mais celui-là, formidable. Celui-là, formidable. Celui-là, rien du tout, rien du tout. Celui-là, formidable. » Une foule de docteurs. Une foule. Voyez-vous, cela reflète un cœur qui est partagé. Un cœur qui n'est pas entièrement consacré à Dieu. Quelqu'un qui a les regards sur l'homme, au lieu d'avoir les regards sur Dieu et sur sa parole. Amen. Amen. L'homme, une foule de docteurs. Et combien de chrétiens sont tombés parce qu'ils ont regardé à l'homme? Quand l'homme est tombé, ils sont tombés avec lui. Combien de chrétiens ne sont plus maintenant dans la course uniquement parce qu'ils ont été déçus des hommes? Pourquoi ils prennent une foule de docteurs? Posez-vous la question. J'y pense juste maintenant, je n'y ai pas pensé avant. Pourquoi ils ont une foule de docteurs? Parce que ils ont été vers un docteur, entre guillemets, toujours. Hein? Alors au début, ce docteur fait des choses extraordinaires, a des paroles mielleuses. Et quand on parle des séducteurs, avant, j'ai oublié de vous dire une fois que le mot séducteur veut dire doctrine, des doctrines de démons. Dans le mot doctrine, il y a la pensée de docteur plutôt, il y a la pensée de personnes qui savent bien parler, qui savent bien s'exprimer. Et alors au début, quand on entend ces gens-là, on est comme subjugué, vous êtes d'accord avec moi? Mais au bout d'un certain temps, d'abord on est content, on dit « Ah, c'est formidable, celui-là, il n'y en a pas deux comme lui. Il n'y en a pas deux comme lui. » Mais au bout d'un certain temps, on sent le vide. On est déçu. On est déçu dans ses espérances. On dit « Ah, c'est ça ?» Alors, celui-là, je l'envoie promener et on va en chercher un autre. Avec le deuxième, « Ah, celui-là, oh, bah, celui-là, je suis sûr qu'il ne va pas me décevoir, celui-là. » Sûr, et on y va. Ouh, celui-là, il parle encore mieux que l'autre. Mieux, il est formidable celui-là. Alors au début, toujours tout nouveau, tout beau, comme on dit, n'est-ce pas? Mais au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui se passe? Ah, déçu. Jamais j'aurais cru qu'il était comme ça. Il parle bien, mais il n'y a pas grand-chose derrière. C'est vide. Allez, on la voit promener, on va chercher un autre. Voilà pourquoi ils cherchent, ils vont après une foule de docteurs. Parce qu'ils sont constamment déçus. Parce qu'ils regardent constamment à l'homme. Et tant que tu regardes à l'homme, que tu comptes sur l'homme, tu t'appuies sur des doctrines humaines, tu seras déçu et encore déçu et encore déçu. Amen. Voilà pourquoi ils en ont une foule, parce qu'ils sont constamment insatisfaits et déçus avec les uns, avec les autres. Et devant ce contexte-là, Paul dit à Timothée, écoute, toi tu connais les Saintes Écritures, tu connais le Seigneur, il a changé ta vie, quelque chose s'est passé en toi. Alors, il n'y a que cela qui pourra satisfaire le cœur des hommes, Jésus-Christ, puisqu'il est tout pour toi, puisqu'il a pleinement satisfait ton âme, tes espérances. Alors, c'est toi, rempli du Seigneur, satisfait en Christ, qui pourra seulement satisfaire les autres. Alléluia! Et c'est pourquoi il lui dit, eh bien, maintenant tu as des responsabilités. Les hommes sont insatisfaits, ils courent d'un homme à l'autre, d'un docteur à l'autre, ils passent d'une doctrine à l'autre, d'une philosophie à l'autre, d'une psychologie à l'autre, et j'en passe, d'une théologie à l'autre, d'une fausse doctrine à l'autre. Et le cœur est constamment déçu, vide, vide, désespérément vide. Voilà ce qu'apporte l'homme. Mais le Seigneur lui remplit notre cœur. Alléluia. Je t'en conjure, dit-il. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. La première responsabilité que Paul remet à Timothée se trouve dans ce mot, je t'en conjure. Que signifie exactement ce mot-là? Dans le texte grec, il y a une pensée bien précise qu'il est bon de connaître. Et ainsi, nous réalisons toujours mieux ce que Paul voulait dire. Le mot « conjure » ici, à l'origine, donc dans le grec, c'était un mot qui était utilisé pour prêter serment dans des places publiques, dans une place publique. C'était un mot donc qu'on utilisait pour prêter serment. Dans des places publiques, c'était en Grèce tout ça, sous le regard des dieux, des idoles, qui rendaient témoignage à cette cérémonie publique. Ceci veut dire que ce serment était une affaire extrêmement sérieuse. Extrêmement sérieuse. Et ceux qui prêtaient ainsi serment, publiquement, le faisaient, bien sûr, c'était des païens, devant leur Dieu. Comme pour dire, eh bien, je prête serment aujourd'hui pour être fidèle à ce qu'on me demande dans mon service public. J'affirme que désormais, je resterai fidèle à ce serment et à la tâche que l'on me demande. Comme prédicateur ou chrétien, vous faites la promesse que vous ne briserez jamais, jamais, jamais ce serment. Voilà ce qu'il y a dans la pensée grecque, dans la pensée originale. C'est comme si vous disiez, oui, 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 je fais ce serment, je fais ce serment. Je ne briserai jamais ce serment aussi longtemps que je vivrai. Je resterai fidèle. Je resterai fidèle à ce que Jésus me demande. Et Paul dit ainsi à Timothée, je t'en conjure. C'est donc ce mot, sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle. Tu as fait une confession publique devant tout le monde. Là, avec les païens, c'était soi-disant les dieux qui les regardaient. Mais toi, c'est devant Dieu et devant Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et c'était donc le serment d'être fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Voyez-vous la première responsabilité que Paul fait reposer sur Timothée? C'était de s'engager à rester fidèle au maître jusqu'au bout. Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu nous demande déjà. Si tu veux avoir le discernement, si tu veux que Dieu te donne des talents, des dons, il te faut réaliser que tout le monde te voit et que tu dois t'engager devant Dieu et dire « Jamais, 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 je ne t'abandonnerai, je te resterai fidèle. » La parole de Dieu ne dit-elle pas « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. » Amen.
Amen.
Voilà de quel esprit Paul était animé et voilà de quel esprit Timothée devait être animé. Mes amis, il y a là une pensée très solennelle. Se sentir responsable et rester fidèle jusqu'à la fin, quoi qu'il en coûte. C'est à cela que Dieu donne des dons, des qualifications et le discernement nécessaire. Malheureusement, combien de chrétiens, dès que la plus petite difficulté arrive, dès qu'on leur demande un peu trop, ça y est, vous ne pouvez plus rien leur dire, plus rien leur demander. Dès que quelque chose les dépasse, dès qu'ils sont contrariés ou persécutés, ou oubliés, ou négligés. C'est ça. C'est comme ça ici qu'on prend soin de moi. Tout le monde m'abandonne ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Si c'est ça, au revoir, c'est terminé maintenant. Et ces gens-là disent, Seigneur, donne-moi le discernement spirituel. Qu'est-ce que tu vas en faire du discernement spirituel? Tu dois réaliser cette responsabilité et tu dois t'engager devant Dieu publiquement pour être publiquement vraiment un témoin fidèle jusqu'au bout. Je t'en conjure. C'était un serment, un engagement très solennel. Le grec qui prenait cet engagement-là, c'était quelque chose qui changeait toute sa vie. Désormais, tout le monde l'observait. Et il savait qu'il devait rester fidèle. Première responsabilité, l'engagement de rester fidèle jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Amen.
Amen.
As-tu pris cet engagement? As-tu pris cette décision? Vous savez, dans la vie, il y a des décisions à prendre. Malheureusement, il y en a qui prennent la décision de ne jamais rien décider. Ça, c'est malheureusement vrai. Il décide de ne rien décider. Et ils sont entêtés dans ce domaine-là. Veux-tu prendre une décision? Ça va t'engager. Mais c'est à ce moment-là que tu verras Dieu dans ta vie.
Amen.
Que tu verras Dieu agir.
Amen.
Tu ne t'engages pas et tu voudrais que Dieu s'engage avec toi? Pour un gramme d'engagement, tu voudrais une tonne de bénédiction? Pour un gramme d'engagement, tu voudrais une tonne de bénédiction? Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Tu dois t'engager 100%.
Alléluia.
Et tu verras Dieu s'engager à ton égard aussi.
Amen.
Tu seras étonné.
Amen.
Et s'engager, c'est être libre.
Alléluia.
C'est quand nous vivons pour nous-mêmes que nous sommes esclaves. Quelle est la personne la plus esclave au milieu de nous? C'est la personne qui vit pour elle-même. Quelle est la personne la plus libre au milieu de nous? C'est celle qui ne vit plus pour elle-même, mais pour le Seigneur.
Alléluia!
La personne la plus libre, c'est celle qui est esclave de Jésus-Christ.
Alléluia.
C'est une contradiction, mais ce sont des contrastes bibliques. Quand nous sommes esclaves du Seigneur, esclaves d'amour, esclaves volontaires, nous sommes esclaves de la liberté. Dieu est libre. Et la source même de la liberté.
Alléluia.
Mais le point important est là, mes amis. Et je crois que dans ces temps de la fin, Dieu demande à tous les chrétiens de s'engager plus que jamais avec lui. Et de se sentir responsable dans l'œuvre de Dieu. Dans ce que Dieu a préparé pour vous, il faut qu'il y ait cet engagement, c'est important. Te sens-tu responsable? Tu verras combien Dieu t'aidera. Si tu prends ta part de responsabilité, il y en a qui n'en... Il y a deux extrêmes toujours. Il y a ceux qui ne veulent rien du tout. Et les autres qui sont écrasés par tout le travail, ils ont le monde entier sur leurs épaules. Ils en ont tellement sur les épaules qu'ils font rien du tout, qu'ils sont complètement écrasés. Ça n'avance à rien. Dieu ne te demande pas de faire. Dieu ne te demande pas l'impossible. Il te demande simplement de faire la chose qu'il te demande. Si petite soit-elle, il veut que tu le fasses de tout ton cœur. Amen.
Amen.
Le serment de s'engager publiquement devant le Seigneur. Alléluia. As-tu pris cet engagement? Dieu prend aussi son engagement. À celui qui s'engage, Dieu s'engage. À un moment donné, dans ma vie spirituelle, j'ai tourné en rond après ma conversion. J'ai repris un peu ma vie personnelle. Et c'est en cette période-là que j'ai le plus tourné en rond. Complètement découragé, déboussolé, je ne savais plus où j'en étais. Et le Seigneur m'a montré clairement, mais pourquoi tu ne sais plus où tu en es? Pourquoi tu tournes en rond? Parce que tu as repris ta vie. Tu ne vis que pour toi maintenant. Il n'y a aucun engagement de ta part. Il n'y a rien. Et tu veux que je fasse quelque chose pour toi? Engage-toi et je m'engagerai. Et c'est là que j'ai dit au Seigneur, oui Seigneur, pardonne-moi. Il n'y a pas d'engagement, pas de responsabilité. Je veux à partir de ce jour me donner à toi. Et c'est à partir de ce moment-là que les portes ont commencé à s'ouvrir.
Amen.
Dieu ouvrira des portes à ceux qui se sentent concernés.
Amen.
De l'œuvre de Dieu. Engage-toi. Et jamais, c'est dans le texte, jamais, 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 tu n'abandonneras le Seigneur jusqu'à la fin de ta vie. Amen.
Amen.
Première responsabilité. Deuxième responsabilité, nous trouvons cela, je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ. Le mot « devant » ici, dans le texte grec aussi, a une pensée très importante. Ce sera la deuxième responsabilité. Le mot « devant » ici veut dire, dans le texte grec, « sous le regard de quelqu'un d'autre ». Une traduction plus littérale serait « être entièrement sous le regard de Dieu ». L'idée est donc que le serment est fait devant Dieu, afin qu'il puisse nous observer du début à la fin. La pensée générale pour Timothée est donc celle-ci, « Mon fils, tu as intérêt à prendre des choses au sérieux, parce que Dieu lui-même t'observe pendant que tu fais ce serment, et Dieu, et il veut voir si tu lui restes fidèle. » Alléluia. Devant Dieu. Donc, cet engagement est pris, non seulement devant les hommes, mais aussi devant Dieu, sous le regard de Dieu. Où nous cherchons à lui plaire par-dessus tout, avant de plaire aux hommes. Voilà un deuxième engagement maintenant. L'engagement de plaire d'abord aux hommes, à Dieu, avant de plaire aux hommes. Amen.
Amen.
L'apôtre Paul lui-même le disait, si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Et c'est là une pensée solennelle, mes amis. Combien de chrétiens ont la crainte de l'homme? Ils sont paralysés, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ont la crainte de l'homme. Ils cherchent à plaire à l'homme. Ils font tout pour faire plaisir à l'un, pour faire plaisir à l'autre. Et c'est ainsi qu'ils sont ballottés et malheureux. Paul dit à Timothée, c'est devant Dieu, sous son regard. Autrement dit, c'est son approbation que tu dois rechercher. Alléluia. Son approbation. Un jour, je lisais cette histoire d'un violoncelliste. D'un violoniste. Il avait beaucoup travaillé pendant des années. Et le jour est arrivé où il devait donner son concert. Alors, il est allé donner son concert. Et il savait que ce jour-là, son maître serait là. Il a donné son concert, tout le monde, la foule était là. La foule était là!
La foule était là. Et à la fin de son concert, naturellement, tout le monde a applaudi. C'était un triomphe. Le succès extraordinaire. Mais voilà que notre violoniste, impassible, il ne bouge pas. Pourquoi ? Parce qu'il regardait dans une direction. Là-bas, dans les balcons, il y avait le maître. Et il observait, il regardait son maître. Et tant que son maître n'avait pas bougé, fait quoi que ce soit, il était là. Il attendait quelque chose de son maître. Et quand son maître a fait, c'est bien, c'est bien. Alors à ce moment-là, il a accepté que les autres, eh bien, le félicitent. Mais seulement lorsqu'il a eu l'approbation de son maître. Ce qui comptait le plus pour lui, c'était ce que son maître pense. Alléluia! Et c'est alors qu'il était content. Content, content! Nous aussi, mes amis, si les hommes nous applaudissent, mais que nous n'ayons pas l'approbation du maître qui est là, qui nous observe, alors ces applaudissements sont une malédiction. Mais si nous avons son approbation, même si nous n'avons pas les applaudissements des hommes, son approbation nous suffit. Amen. Alléluia. Amen. Ça suffit, ça suffit. Si je voulais être serviteur, si je voulais plaire aux hommes, disait Paul, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Voilà un deuxième engagement, mes amis. Voilà ceux à qui Dieu donne le discernement ou une tâche ou une responsabilité à ceux qui cherchent à plaire à leur maître par-dessus tout. Amen.
Amen.
Voilà l'engagement que Timothée devait prendre devant être entièrement sous le regard de Dieu. Tout faire pour lui plaire, pour faire sa volonté et non la nôtre, et non celle des hommes, mais la volonté de Dieu. As-tu pris cet engagement? Te sens-tu responsable? Ou est-ce que tu es encore esclave du qu'en dira-t-on? Le qu'en dira-t-on, c'est quelque chose de terrible, ça. Ah non, frère. Oh non, je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mon voisin, mon ami, mon père, ma mère, le grand-père, l'autre là-bas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mon patron, le directeur, la directrice, qu'est-ce qu'ils vont dire? Le qu'en dira-t-on? Paralyse des multitudes. Timothée, tu es devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit un jour juger les vivants et les morts. Un jour, tu auras des comptes à rendre, non devant les hommes, mais devant Dieu. C'est pourquoi ne cherche pas à plaire aux hommes. Cherche à plaire à ton Dieu. Amen. Amen. Ne cherche pas à plaire aux hommes, car eux aussi un jour viendront en jugement. Qui est l'homme pour que tu le craignes? Cherche à plaire à Dieu, car c'est à lui un jour qui te jugera.
Amen.
Donc cherche à lui plaire. Par-dessus tout. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà le deuxième engagement. Je t'en conjure devant Dieu et Jésus-Christ, sous son regard, sous son approbation. C'est la plus belle des vies lorsque nous vivons ainsi, ne cherchant qu'à plaire au Seigneur. Tout pour sa gloire, tout pour lui et rien pour nous. Combien de fois je dis au Seigneur continuellement, tout pour toi. Et rien pour moi. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Tout pour te plaire. Même si je devais déplaire à tous les hommes, je veux te plaire. Cela ne veut pas dire que je suis parfait. Quand vous cherchez à plaire à Dieu, ça ne veut pas dire que vous êtes parfait. Pas du tout. Mais ça veut dire que vous craignez Dieu en premier. Ça veut dire que vous voulez premièrement lui plaire à lui. C'est le maître. C'est au maître que nous devons tout. Amen. C'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a purifiés, c'est lui qui nous a délivrés, c'est lui qui nous a remplis de son esprit, c'est lui qui nous a donné tous les dons, c'est lui qui a tout fait, qui a tout fait. Et on voudrait craindre quelqu'un d'autre qui n'a rien fait pour nous. Quelle anomalie, quelle contradiction. Tu veux craindre des gens qui n'ont rien fait pour toi. Et tu veux avoir... Tu as peur ou tu crains celui qui s'est donné pour toi et qui t'a aimé jusqu'à donner sa vie. Quel amour! Comment ne pas chercher à lui plaire avant tout et par-dessus tout. Amen.
Amen.
Voilà, si nous prenons cet engagement, si nous nous sentons responsables devant Dieu premièrement, mes amis, alors Dieu pourra vous confier une tâche. Parce que c'est ce que Dieu recherche, des hommes et des femmes comme cela. Car si nous voyons les choses sous cette optique-là, nous resterons fidèles. On fera nos erreurs, vous ferez vos erreurs, moi je fais mes erreurs. Qui ne fait pas d'erreurs, n'est-ce pas vrai? Qui n'en fait pas? D'ailleurs, de toute manière, Dieu ne peut pas utiliser des personnes parfaites. Dieu ne peut pas utiliser des personnes parfaites. Si vous vous croyez parfait, ou si vous attendez la perfection, Dieu ne vous utilisera jamais. Ce qu'il faut, c'est un cœur entier pour le Seigneur. Amen. Voilà, c'est là, c'est là. C'est là, c'est ce que Dieu demande, un cœur entier. Il fait peut-être des erreurs, mais il est entier. Et si nous faisons des erreurs, Dieu nous aidera, nous corrigera, nous ramènera, nous relèvera, nous purifiera. Alléluia! Mais c'est ça qui compte le plus. C'est plaire au maître, comme ce violoniste. Tout le monde l'applaudit. Qu'est-ce que vous aurez fait, vous? Ah ouais, Marina! Non! La joie serait limitée. Mais quand le maître dit... D'accord. Ah, là, tu peux exploser. Alléluia! Tu exploses! Alléluia! Le Seigneur est content. Le Seigneur est content. Le Seigneur est content. Alléluia! Que tous les hommes soient contre moi, peu m'importe. Le Seigneur est content. D'alors, et laissez-moi dire une chose. Si vous cherchez à plaire aux hommes, vous n'arriverez jamais à plaire à tout le monde. Jamais. Alors il vaut mieux, une fois pour toutes, hein, ne pas regarder aux hommes et ne pas chercher à plaire aux hommes. Parce que celui qui est avec vous aujourd'hui, un jour, se dressera peut-être contre vous et ça fera mal. Ne l'oubliez pas, ça. Ne l'oubliez pas, c'est pourquoi le Seigneur nous dit « cherche d'abord à plaire aux hommes ». Ne l'oubliez jamais, cela. Hein, pardon ? Cherche d'abord à plaire à Dieu. Amen. Pas aux hommes, oui, oui. Voilà, vous voyez, ça sert à quelque chose, une épouse. Hein? Elle est là pour m'aider. Cherche à plaire à Dieu. Voilà, c'est bien. Gloire au Seigneur. Allons un peu plus loin. J'ai un troisième engagement. Nous allons trouver une pensée encore, une bonne pensée dans un autre mot. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume. Au nom de son apparition. Pourquoi l'apôtre dit au nom de son apparition? C'est ce qui devait aussi le pousser à s'engager davantage. Et le mot apparition ici, dans le grec, veut dire... Ce mot était toujours utilisé par les Grecs pour décrire une apparition soudaine et surprenante. Alors l'idée est donc celle-ci. Paul dit à Timothée, « Mon fils, tu as intérêt à faire les choses convenablement. Tu as intérêt à être sérieux avec ton serment parce que le Seigneur Jésus-Christ va venir et son apparition sera une surprise. Elle sera soudaine. » Voilà ce que Paul dit à Timothée. Fais ton travail, cherche à plaire à Dieu. Cherche à plaire au Seigneur, car il peut venir instantanément. S'il venait ce soir, est-ce que tu serais prêt? S'il venait ce soir, est-ce que tu serais dans cet esprit-là? Au nom de son apparition, c'est une apparition soudaine, surprenante. Et ce sera une surprise, vous êtes d'accord avec moi, quand Jésus reviendra. Une surprise générale. C'est pourquoi, chaque jour, nous devons être prêts. Nous ne devons pas attendre un certain jour pour nous engager, c'est maintenant. Parce que s'il revient maintenant, est-ce qu'il te trouvera engagé maintenant? Ne dis pas plus tard, quand je serai plus âgé, quand je ferai ceci. Non, maintenant. Il peut venir maintenant. Sois prêt maintenant. Et ça, c'est quelque chose qui devait motiver Timothée si le Seigneur revenait maintenant. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis engagé? Ce sera une surprise. Je n'aurai pas le temps à ce moment-là de me préparer. C'est maintenant. C'est maintenant que je dois faire ce que je dois faire. C'est maintenant que je dois m'engager. Alléluia. De telle sorte que si le Seigneur venait me surprendre maintenant, eh bien je serai prêt. Au nom de son apparition, il revient bientôt. Voici, je reviens promptement. C'est pourquoi nous devons veiller, nous engager. Et Dieu donnera les qualifications nécessaires. Ce que tu dois faire, fais-le maintenant. Il revient promptement, soudainement. Ce sera une surprise. Si tu l'attends tous les jours, ce ne sera pas une surprise. Ce sera le jour du couronnement. Alléluia. Mais si tu n'es pas prêt, ce sera vraiment une surprise. Mais si tu es prêt, ce ne sera pas la surprise. Ce sera enfin, Seigneur. Alléluia. Je t'attendais. Je t'attendais. Alléluia. Tu m'attendais. Alors on s'en va. On s'en va. Alléluia. Et le Seigneur te dira, moi aussi je t'attendais. Pas seulement moi qui t'attends, mais le Seigneur aussi nous attendait. Il nous aime tant qu'il veut nous prendre avec lui, nous serrer dans ses bras et nous consoler éternellement. Et ses serviteurs verront sa face. Il séchera les larmes des yeux. Et nous serons pour toujours dans sa présence. Amen. Amen. Alléluia. Que c'est merveilleux. Quatrième engagement. Nous trouvons cela dans un autre mot important qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume. Après, qu'est-ce que vous avez? Prêche la parole. Nous allons voir ce que ce mot prêche veut dire ici. Parce que là aussi, il y a une pensée importante. Prêche la parole. Timothée comprenait cela parce que c'était le grec. Bien souvent, nous, prêche la parole, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Il faut parler, bien sûr, prêcher. Mais il y a une urgence derrière, il y a une image derrière cela. Et vous savez, le mot prêche, prêcher, en grec, veut dire, c'est un mot très solennel et puissant. L'origine de ce mot grec était utilisée pour décrire le porte-parole d'un roi ou d'un empereur. L'ambassadeur d'un roi ou d'un empereur. L'homme, l'image derrière prêche la parole, c'est l'image d'un homme qui a accès au trône du roi. Et qui lui dit, ô roi, quel est le message que tu veux que j'apporte au peuple? Alors ce messager, ce porte-parole écoute, le roi lui donne le message et il s'en va dans les rues. Et dire maintenant, ainsi parle le roi. Et il apporte fidèlement le message. Tel que le roi le lui a donné, fidèlement il le transmet.
Alléluia.
Alléluia. Amen. Prêche la parole, il y a cette image derrière. L'image d'un homme qui vient dans la présence de Dieu. Qui vient près du trône chercher le message de Dieu. Voyez-vous, la solennité, c'est quelqu'un qui va chercher le message auprès de Dieu, de son trône, qui écoute. Quel est le message que tu veux que j'apporte? Il écoute. Et ensuite, son devoir, c'est d'aller dans les rues et de crier et dire, ainsi parle le roi. Et il apporte ce message sans aucune addition, sans aucune soustraction. Il l'apporte fidèlement. Parce que s'il ne l'apportait pas fidèlement, s'il en ajoutait un petit peu, qu'est-ce qu'il ferait là? Il risquerait de se faire tirer les oreilles par le roi ou l'empereur. Qu'est-ce que tu racontes là-bas? Et pour beaucoup d'entre nous, enfin beaucoup de chrétiens, c'est un peu ça aussi. Ils prêchent la parole, mais ils en ajoutent un peu à eux. Et puis monsieur un tel a dit ceci, le professeur un tel a dit cela, le psychologue un tel a dit cela. Et voilà ce qu'on dit aux autres. Celui qui parle comme cela n'a pas été dans la présence du trône royal. lorsque nous entrons dans la présence du trône royal, là, tout ce que l'homme dit ou pense disparaît totalement. Amen.
Amen.
C'est le roi qui parle.
Amen.
Les idées des hommes, les pensées de l'homme n'ont plus aucune valeur du tout. C'est Dieu qui parle. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, prêche la parole. Prêche la parole. Oh, tu vas vivre un temps où les hommes ne supporteront plus cela. Eh bien, comment se comporter en temps d'apostasie? Comment se comporter quand les fausses doctrines pullulent? Eh bien, c'est de prêcher la parole sans aucun compromis, qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas. Amen.
Amen.
Malheureusement, la tendance aujourd'hui, quand les gens ne sont pas d'accord avec vous, ah, on commence à faire des compromis. Ah, faut pas exagérer. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à la place de Timothée? Oh, Paul, tu exagères un peu. Ah, si je fais ça, mais ça va pas aller, je vais souffrir. Paul lui dit, supporte les souffrances. Nous, maintenant, la moindre souffrance, nous n'en voulons pas, n'est-ce pas vrai? On veut tout recevoir, toutes les bénédictions, mais sans souffrance. Ça, les souffrances, c'est pour les autres. Et les bénédictions, c'est pour nous. Il y en a qui sont champions pour ça. Ah, tu es en train de souffrir? Ah ben, c'est très bien. Toi, ça te fait du bien. Tu avais justement besoin de ça. Tu avais un peu la tête dure, et ben maintenant, c'est bien de passer par là. Mais les bénédictions, ça c'est pour moi, les bénédictions. Voilà, voilà comment nous réagissons. Prêche la parole. Il y aura un temps où les hommes ne supporteront plus cela. Et quelle est la tâche première du serviteur, de la servante du Seigneur? C'est de prêcher cette parole comme étant dans la présence même du roi. C'est sa parole, ce n'est pas notre message. Nous n'avons pas le droit de diluer, de frelater, de tronquer ce message. Parce que si nous prêchons fidèlement, les uns ou les autres se moqueront de nous, nous rejetterons. Alors, si nous avons une telle pensée, nous ne sommes pas dignes d'être ses porte-paroles. Et ce porte-parole, être un porte-parole du roi ou d'un empereur, c'était un honneur extraordinaire. Et quel honneur Dieu nous fait de porter sa parole. Amen.
Amen.
De porter sa parole. Prêche la parole. C'est la parole du roi. Alléluia. Et on la reçoit du roi et on la communique. Sans aucune addition, ni soustraction, telle qu'elle est, dans sa pureté. Car c'est cette parole qui éclairera, qui sondera, qui révélera où en sont les gens. C'est la saine doctrine qui révèle les fausses doctrines. Pourquoi les gens sont perdus dans les fausses doctrines? Parce qu'ils ne connaissent pas la saine doctrine. Et pourquoi même sont-ils si orgueilleux dans leur fausse doctrine? Parce qu'ils sont ignorants de la saine doctrine. Mais prêcher la saine doctrine à ces gens-là, vous croyez qu'ils vont vous aimer? Ceux qui sont droits, peut-être, ils vous diront merci, mais la plupart, ils s'opposeront à vous. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui, quelqu'un qui prêche fidèlement la parole, on lui dit, mon ami, tu es un rétro, tu es un arriéré. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un nous téléphonait à la maison. On lui dit, est-ce que vous croyez à la parole de Dieu? Mais bien sûr, je crois à la parole de Dieu. Mais bien sûr. Et vous savez ce qu'elle a dit? Parce qu'elle croyait dans une secte, les mbaïs. C'est les baïs, comment on dit?
Les baïs.
Oui. En plus, elle croyait en ça. On lui a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous croyez que la Bible est la parole de Dieu? Alors elle ne suffit pas, puisque vous voulez encore croire en quelque chose d'autre. Vous savez ce qu'elle dit? Ah, mais... On lui a dit, vous croyez en Jésus? Mais bien sûr, on croit en Jésus. Mais voyons. Mais j'ai dit, alors pourquoi vous croyez en ça en plus? Alors vous savez ce qu'elle a dit? Regardez la ruse. C'est là la ruse. Ah, elle a dit, mais Jésus avait un message pour son temps. La parole de Dieu, eh bien la parole de Dieu, mais c'était pour son temps, il y a 2000 ans. Regardez la ruse. Regardez la séduction. Elle dit, mais maintenant, Dieu parle avec d'autres personnes. d'autres gourous, d'autres maîtres, entre guillemets. Alors, il faut évoluer avec son temps. Voilà ce qu'elle voulait nous dire. Il faut évoluer. Et quand on lui dit, mais la Bible, c'est la parole de Dieu, dès maintenant, je veux dire, depuis le début jusqu'à la fin, elle devait penser cela. C'est des pauvres types. Pauvres types. Ils ne savent rien. Ils n'évoluent pas avec le temps. Et c'est ainsi qu'on se moque. Et bientôt, ça ira plus loin que la moquerie. Ce sera la persécution ouverte. C'est pourquoi il nous faut être ferme. Être ferme. Et je termine. Cinquième engagement. Je termine maintenant. Juste encore. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Voyons ce verbe insister maintenant. Dans le texte grec, vous savez ce qu'il veut dire, ce verbe ? C'est un terme militaire qui veut dire « reste à ton poste ». Monte la garde auprès de la parole. Garde bien cette parole, reste à ton poste. Ça va exploser dans tous les coins. On se moquera de toi, on te rejettera. Mais sois fidèle, reste à ton poste, insiste. Et vous savez, il est dit ici, insiste, en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte. C'est loin du message de l'amour dont on entend parler aujourd'hui. Soi-disant, la Bible nous dit qu'il faut s'aimer les uns les autres. Est-ce qu'ils ont lu leur Bible, ceux-là? Et ces gens vous disent encore, mais la Bible dit qu'il faut s'aimer. C'est toujours la première avec ça. Et puis tout ça, rien. Ils disent qu'ils connaissent la Bible, mais ils ne connaissent rien. Ils sont séduits et ils trompent les autres. Et regardez ici, reprends, censure, exhorte. Avec toute douceur en instruisant. Ici, il y a une pensée importante. Car dans le grec, la phrase est répétitive. Ce qui veut dire, prêche, prêche, prêche la parole, prêche la parole, prêche la parole, prêche la parole. Alléluia! Voilà ce que Paul dit à Timothée, prêche, prêche cette parole. Il n'y a que ça qui va éclairer les gens, sonder les gens, corriger les gens. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. Si tu n'as pas ça, reste à ton poste. Reste à ton poste. Veille à ce que cette parole soit dans ton cœur, dans ta bouche et dans ton message. Soit remplie de la parole de Dieu. C'est elle qui libère. C'est le réformateur Farel qui disait en prenant et devant la Bible, en parlant de la Bible, qu'il disait « Que veux-je ? Sinon, qu'elle flamboie ! » Alléluia ! Il en faudra encore des réformateurs comme ça. Qu'est-ce qui a fait la réformation ? C'est la prédication de la parole de Dieu. L'insistance pour que cette parole soit constamment annoncée. C'est pourquoi quand on entend quelque chose, dites, est-ce que la parole de Dieu dit ça? Est-ce que les apôtres ont prêché ce que tu me prêches là? Montre-moi un petit peu si les apôtres ont prêché cela. Et c'est comme ça que vous allez un peu coincer les uns et les autres. Prêche, 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 prêche la parole. Voilà, c'est notre arme. C'est celle qui nous libère et c'est celle qui libère les autres. C'est celle qui nous éclaire et c'est celle qui éclaire les autres. Amen. Puissions-nous rester à notre poste. Reste à ton poste. Ne fuis pas. Ne sois pas un fuyard. Reste à ton poste. C'est un terme militaire. Et à l'armée, il faut obéir. Vous êtes d'accord avec moi? À l'armée, on obéit. Sinon, tu es un déserteur. Et dans l'armée du Seigneur, nous devons rester à notre poste. Insiste. Reste à ton poste. Dis ce que Dieu dit. C'est tout ce que Dieu te demande. Qu'on te tape dessus, qu'on te jette des tomates, des œufs pourris, reste fidèle. La parole de Dieu dit, bon, 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 peu importe. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Voilà les responsabilités que Timothée devait assumer au sein de l'apostasie qui vient. Soyons prêts. Un homme averti en vaut deux. Préparons-nous. Et c'est ainsi que nous resterons debout. Alléluia. Lorsque Jésus reviendra. Amen. Amen.